faire un dog trip en terre viking avec son chien. C'est ce que propose Charles Arisa, guide polaire, lors de ses escapades dog-friendly dans le sud de la Suède. Un petit groupe, peu de chiens et un milieu naturel accueillant entre la mer du Nord et une immense forêt boréale. Tout ce qu'il faut pour une semaine de voyage typique au cœur de la Suède avec son chien. Et le must, c'est qu'il s'occupe de tout. Organisation des randonnées, du logement, des repas des humains, etc. Vous n'avez qu'à profiter. Retrouvez toutes les infos sur son site, charlarisa.com. Hello à tous et bienvenue sur le podcast TWIP, ta série audio pour vivre mille aventures avec ton chien. Deux lundis par mois, on se retrouve pour échanger avec un ou une passionnée qui lui aussi emmène son chien partout. Dans chaque épisode, tu retrouveras des conseils, des inspirations pour te donner envie de bouger et profiter avec ton chien. Si cette émission te plaît, je t'invite à lui donner une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et à partager ton épisode préféré sur Instagram. Aujourd'hui, je reçois Julie au micro de TWIP pour parler du GR20. Le GR20, c'est la grande randonnée qui traverse la Corse du nord au sud. Julie nous partage donc tous ses conseils pour organiser ce long trek de 180 km et 11 000 mètres de dénivelé positif durant une marche de 15 jours. Elle a évidemment emmené son chien Rio avec elle, mais son trek ne se passera pas exactement comme prévu et c'est ce qu'elle va nous expliquer aujourd'hui. Hello Julie, bienvenue sur le podcast, comment vas-tu ?
Salut Alicia, eh bien écoute, ça va très bien, merci pour ton invitation sur le podcast, je suis très contente d'être là.
Je suis très contente que tu l'aies accepté. Donc aujourd'hui on va parler du GR20, une randonnée, enfin plutôt un trek assez mythique en Corse. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu voudrais bien te présenter ?
Oui, bien sûr. Alors du coup, je m'appelle Julie, j'ai 29 ans, je suis infirmière et effectivement, on est parti avec mon chéri faire le GR20 l'année dernière, mais pas juste nous deux. Du coup, on était accompagnés de notre chien Rio, un Eurasien qui a fait 3 ans là.
Ok, c'était sa première rando à Rio ?
Alors, c'était pas sa première rando, mais c'était sa première grosse expérience, on va dire, sur une si longue durée. On avait déjà un petit peu randonné, mais voilà, là, c'était vraiment notre première grosse aventure, tous les trois, ensemble, en famille.
Avant de venir sur ce qui vous a motivé et donné envie de faire ce beau parcours, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus ce que c'est le GR20 ?
Bien sûr. Alors du coup, déjà pour commencer, pour ceux qui ne savent pas, GR, ça signifie grande randonnée. Donc c'est un itinéraire qui est balisé pour randonner à pied, sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, pour les plus motivés. Et du coup, le GR20, ça va être l'itinéraire qui va traverser la Corse du nord au sud. Pour imaginer, c'est à peu près par la diagonale, en passant par les montagnes. Ça va faire à peu près 16 étapes sur 180 km et 11 000 mètres de dénivelé, pour ce qu'on compte.
Ok, donc un bon morceau.
Ouais, une belle expérience de marche.
Ok, et du coup, là, c'était la première fois que vous faisiez un si long parcours avec Rio. Comment ça s'est passé ? Est-ce que vous avez dû faire des étapes en amont, enfin tu vois, pour appréhender un peu la marche, que ce soit pour vous ou pour votre chien, enfin parce que j'imagine que un si grand parcours, ça s'improvise pas.
En fait, déjà, faut savoir que l'envie de faire le GR20, ça nous est venu avant qu'on ait Rio, à peu près 2019. J'ai des amis qui ont posté sur Facebook des vidéos et des photos de leur trek sur le GR20, et en fait, ça m'a grave donné envie. J'ai toujours aimé un peu la nature, randonnée, tout ça, même si on en a jamais trop fait en fait avant d'avoir Rio. Vincent, lui, il avait déjà fait un petit peu quelques parties du GR20 avec sa famille quand il était plus jeune. Et du coup, quand j'ai vu ses photos, ses vidéos, ça m'a donné envie. Je lui en ai parlé et en fait, ça nous a motivés tous les deux. On s'est dit, bah, allez, ouais, pourquoi pas, on va se lancer ce petit projet fou de partir faire le GR. Et en fait, il y a eu le Covid qui est arrivé juste après, fin 2019, début 2020. Voilà, donc ça a compliqué un peu les plans. Et puis, entre-temps, on a eu Rio aussi qui est arrivé. Début 2020, en mars 2020. Donc, il était petit, il fallait lui laisser le temps de grandir, hein, parce qu'on part pas sur un projet comme ça avec un chiot. On a profité qu'il grandisse, de faire commencer un petit peu les randonnées avec lui, qu'il prenne un petit peu d'expérience dans les marches, tout ça. Et en attendant, de notre côté, on a randonné aussi, on a pris un peu de l'expérience dans la marche, parce que c'est intense le GR20. Et on s'est préparé aussi dans nos recherches, un peu les étapes, le parcours, ce qu'on allait faire. Voilà, donc on a préparé tout ça en amont.
Pour ceux qui ne connaissent pas cette randonnée, est-ce que tu peux nous décrire un peu les paysages qu'on y rencontre ?
Alors c'est assez varié. Alors déjà, ça reste la Corse, donc paysage très varié, il va y avoir autant de la montagne que des plateaux, beaucoup de dénivelé, ça monte, ça descend. Au niveau des températures, ça reste très chaud, hein, même si c'est de la montagne. Plutôt frais la nuit et des températures un petit peu chaudes la journée, voire même très chaudes. Je ne sais pas, pour ceux qui connaissent un peu le Var et le sud de la France. Bon, ben voilà, ça ressemble pas mal. Bon, avec un peu des températures qui ressemblent aussi à celles de la montagne. Au niveau des paysages, ben, il y a vraiment de tout. C'est aussi ce qui est chouette sur le Gervin. Autant des crêtes sans arbres, où il va y avoir que de la roche, très désertique, des plateaux très herbeux, des fleurs, des forêts, des cascades, des rivières, et en même temps des endroits aussi où il ne va pas y avoir du tout d'eau. Donc vraiment très très varié. C'est un endroit très sympa pour se dépayser complètement, on voit vraiment de tout. Et c'est très très chouette, en à peu près 15 jours d'étape sur le Gervin. Mais vraiment, c'est 15 jours complètement différents, autant dans les températures de ce qu'on va voir, les levées de soleil, les couchers de soleil. Tout est vraiment différent, c'est vraiment très très joli.
Et du coup, pour pouvoir appréhender un petit peu ce GR, comment les journées, elles se découpent? Vu que tu dis que enfin, vous l'aviez prévu en 15 jours, une journée type, c'est à peu près combien de kilomètres, combien de dénivelés, combien d'heures de marche?
Alors, c'est très varié au niveau. Sachant que tout le GR20 en fait 180 km et à peu près 11 000 mètres de dénivelé, les étapes elles vont vraiment être différentes parce que ben, la montagne c'est varié aussi. Sur les plus grosses étapes, on va dire, ça peut monter jusqu'à 1360 mètres de dénivelé positif. Donc c'est ce qu'on va monter. Derrière, il va falloir le redescendre aussi. Pareil, les plus grosses journées, 23 km à marcher de distance. Au niveau altitude, ben, les plus hautes altitudes, ça va jusqu'à 2600 mètres à peu près. Les plus grosses journées de marche, on va dire environ 8 heures. Voilà. Alors heureusement, ce n'est pas la plus grosse étape qui va faire tout ça réuni. C'est assez varié. Chacune va avoir ses difficultés. Certaines, ça va être le dénivelé, d'autres la distance, d'autres l'altitude, d'autres la durée. Mais voilà, dans l'ensemble, ça reste quand même très intense. Donc, faut être préparé. Et avoir le mental, surtout.
Et toutes les journées, elles font à peu près 8 heures de marche, ou il y en a qui sont beaucoup plus courtes?
Non, il y en a qui sont beaucoup plus courtes. La plus courte, on était aux alentours de 4-5 heures, si je dis pas de bêtises. Ça va être des journées de 4-5 heures, mais finalement, qui vont avoir des gros dénivelés ou qui vont être difficiles dans les pierriers, un peu des parties un peu à escalader, sur des crêtes. Voilà. Donc, plus courte, mais plus intense physiquement. Et à l'inverse, les journées généralement qui sont un peu plus longues, ça va être un peu plus plat, un peu plus roulant pour marcher, beaucoup moins de rochers, beaucoup moins de dénivelé, des étapes plus simples pour certaines.
Donc c'est plutôt un trek conseillé aux personnes avec un petit peu d'expérience.
Oui, quand même. Alors, nous, voilà, on n'était pas des grands randonneurs avant Rio. On s'est mis, ben, je pense, comme beaucoup de propriétaires de chiens, finalement, on s'est mis à sortir, à randonner un peu plus quand on a eu notre chien. Et puis, vraiment, ben, quand l'envie nous est venue, du coup, de se faire le Gervin, on s'est dit, bon, ben, il faut quand même se préparer autant nous que lui. Donc, on a commencé à randonner un petit peu. On lui a aussi fait découvrir ben, la vie en tente parce que ça, il ne connaissait pas. Et puis, ce n'est pas donné à tous les chiens de s'adapter tout de suite directement. Donc, on était un petit peu partis en vacances. On avait pris la tente. On était allé bivouaquer. On avait bien fait d'ailleurs de le préparer parce que les premiers temps, les premières nuits qu'il passe dans la tente complètement aux aguets, au moindre bruit, il se réveillait, il nous réveillait. Enfin, on passait des nuits un petit peu compliquées. Et puis, quand on randonne après la journée, il y a intérêt quand même à être un peu reposé de ses nuits parce que sinon, si on cumule la fatigue de la journée plus la nuit qui n'est pas très reposante, ça peut vite être compliqué. On s'était un peu entraîné comme ça, on avait préparé tout ça comme ça. Et puis, du coup, ben, on s'est aussi rendu compte que ça nous plaisait et qu'on voulait. On était toujours autant motivés, même encore plus pour partir faire le Gervin.
C'est intéressant que tu parles de la tente. Comment tu t'es organisé toi pour cette traversée? Du coup, vous êtes parti en autonomie, c'est ça?
Alors, on est parti en semi-autonomie. En fait, on avait prévu, parce qu'avec un chien, c'est quand même lourd, parce qu'il faut prévoir hein, ben, tout le matériel pour le chien en plus du nôtre. Donc, il y a tout ce qui est ben, les croquettes pour 15 jours. Enfin, ça fait même 16 jours, du coup.
Ça fait combien de kilos de croquettes pour Rio?
Alors, pour Rio, on avait prévu 5 kilos de croquettes. On avait prévu un peu plus large parce que, bah, vu l'effort physique, on s'est dit il va avoir besoin d'un peu plus d'énergie. Donc, 5 kilos de croquettes pour Rio. L'eau qu'il faut porter, bah, pour lui, plus pour nous, plus tout son matériel. Donc, on avait prévu tout ce qui était gamelle d'eau, gamelle de croquettes, le harnais, la longe, un petit bout de riz aussi pour pouvoir l'attacher, tout ce qui est après. Le collier, ben, bon, ça, il l'avait sur lui, mais des chaussons aussi de protection. On avait pris aussi une brosse parce que ben, c'est un chien à poil long, donc il fallait continuer un peu à entretenir son poil sur le GR, elle continue d'aérer. La muselière, parce que je vais y en parler aussi, mais pour les transports en commun, important de l'avoir. On a petite pharmacie, la tente, et puis notre matériel à nous, donc tout ce qui était les vêtements, le sac à dos. Donc on avait pris cette partie-là. Par contre, niveau nourriture, on avait pris uniquement des barres énergétiques. Et après, on faisait les repas du soir en refuge. Petit déjeuner, on prenait une barre énergétique avant de partir, de démarrer. La journée, quand on avait besoin, qu'on sentait un petit coup de main, on mangeait ça. On arrivait au refuge, ils avaient des petites épiceries, donc on mangeait, on grignotait un peu ce qu'ils avaient sur place, des fois on s'achetait un petit quelque chose à manger, et selon l'heure, après on passait directement au dîner.
Ok, donc vous mangiez pas vraiment le midi, mis à part des barres énergétiques, quoi.
Ouais, non, on grignotait, après on n'arrivait pas trop tard dans la journée, donc selon l'heure, si on arrivait début d'après-midi, on passait à l'épicerie du refuge. On s'achetait un petit quelque chose à manger. Bien souvent, il y avait du pâté, des choses comme ça, des produits un peu locaux. Et on grignotait un petit peu en attendant le repas du soir. Mais voilà, on était déjà bien chargés avec nos affaires, avec le matériel pour Rio et la tente. Et du coup, c'est vrai qu'on ne voulait pas s'alourdir encore plus. Pour se rendre compte, j'avais 14,5 kg sur le dos et Vincent, il avait 17,5 kg. C'est quand même un bon poids déjà. On ne voulait pas s'alourdir encore plus en prenant des repas lyophilisés, tout le réchaud et tout ça.
Je comprends. Parce que en termes d'équipement de trek, donc pour dormir, etc., vous aviez une tente et des duvets optimisés pour, ou c'était vraiment du matériel de bivouac?
Alors, on avait investi effectivement dans du matériel spécifique, du coup, pour le GR20. On s'était dit qu'on investissait finalement pour du long terme parce que ça nous avait déjà un peu plu les petits séjours qu'on avait fait avec Rio avant de partir sur le GR, et que du coup, on continuerait par la suite sur des aventures plus ou moins intense et plus ou moins longue, mais on continuerait à se servir de notre matos. Donc, ouais, effectivement, on a investi. Du coup, on s'est acheté déjà nos tenues parce que c'est un investissement aussi au niveau technique, parce qu'on ne peut pas partir avec n'importe quoi sur le GR, ça reste la montagne. Il faut autant des vêtements chauds que des vêtements aérés pour quand il fait très chaud. Et puis, en cas d'intempéries, de pluie, de vent, il faut pouvoir à un moment se couvrir. Pareil, au niveau des chaussures, les chaussures de randonnée, donc c'est l'investissement. Le sac à dos, on va porter du poids. On va marcher pendant une quinzaine de jours, donc il faut avoir quelque chose de confortable, de pratique aussi, parce que tout notre matériel est rangé dedans, si on doit prendre quelque chose, que c'est la galère à chaque fois, voilà. Et effectivement, du coup, au niveau de notre tente, pareil, on avait prévu déjà une tente 3 places, parce que à nous deux, plus avec le chien, sachant qu'en plus c'est un chien poil long, qui a vite chaud, il faut qu'il puisse un peu s'écarter de nous, avoir sa petite place à lui. Donc on ne voulait pas être serré dans une tente de place, à galérer avec nos affaires. Si jamais il pleuvait sur le GR20, on se retrouvait nos affaires à l'intérieur, le chien, nous deux. Ça aurait été compliqué. Tente, ça a été un de nos gros investissements parce qu'il faut quelque chose aussi qui soit léger déjà par rapport à tout ce qu'on va avoir dans le sac. Avoir du matériel le plus léger possible. Résistance, parce que les rochers, encore, c'est sol, encore, c'est beaucoup de granit, beaucoup de pierres. Se retrouver avec une tente qui a été abîmée et trouée par la pierre et derrière, après avoir une pluie, la tente qui prend l'eau. C'est pas très chouette. Niveau couchage, on avait des matelas. Nous, on avait investi dans des matelas gonflables. Pareil, un petit peu technique pour bien dormir quand même, pour être un peu isolé aussi du sol et du froid du sol. Et après, nos duvets aussi assez légers. Au niveau des températures, on avait pris des 0 degrés parce que la nuit, ça descend quand même assez bas sur GR, même si la journée, il fait très chaud. Au niveau du matériel, bien équipé.
Ouais, c'est ce qu'il faut dans tous les cas, surtout quand on dort en tente. Il est quand même possible de dormir dans les gîtes.
Alors voilà, donc en fait, j'en ai pas parlé, mais du coup, le GR20, donc, il est divisé en 16 étapes. Et sur ces 16 étapes, il y a à peu près des refuges, du coup, à la fin de chaque étape. Et en fait, il faut savoir que les chiens ne sont pas du tout autorisés dans les refuges. C'est pas du tout dog-friendly à l'intérieur. Et en plus, il faut savoir que le bivouac sauvage, il est complètement interdit sur le GR20. Donc, on est obligé de dormir aux alentours des refuges. Donc, il y a des emplacements qui sont dédiés aux tentes pour ceux qui ne veulent pas dormir ou qui ne peuvent pas dormir dans le refuge. Donc, étant donné que les refuges sont interdits aux chiens, nous, on a décidé de louer des emplacements de tentes autour des refuges. Pour ceux qui n'ont pas de chiens, ils peuvent aussi louer juste la tente sur place. Alors, au niveau des tarifs, pour le refuge, on est sur du 15 €. Donc pour ceux qui vont dormir à l'intérieur, ceux qui vont louer la tente avec l'emplacement, du coup, pour une personne, ça va être du 18 €.
Donc, c'est plus cher de louer une tente que de dormir dans le gîte.
Ouais, c'est ça. Alors, ça, en plus, c'est pour louer une tente avec l'emplacement, mais pour une seule personne. parce que si c'est pour deux personnes, du coup, donc ça va être quand même une seule tente, mais du coup, deux personnes, on passe à 25 euros. Et la location de l'emplacement simple, ça va être 7 euros. Donc, c'est pas donné, sachant que bah, c'est 7 étapes. Et il faut savoir aussi que ça, c'est les tarifs en réservant en avance. Parce que si tu réserves en arrivant sur place, tu rajoutes 5 euros à ces tarifs-là. En multipliant par 7 étapes, ça fait 16 étapes, pardon, ça fait vite un budget, du coup, rien que pour l'hébergement.
Et les 7 euros pour la location de l'emplacement, c'est par tente du coup ?
C'est par tente, mais c'est par personne aussi. C'est-à-dire que si dans la tente, il y a deux personnes, il faut payer deux fois 7 euros. C'est pas juste l'emplacement tente, en fait, ça va être aussi l'accès aux sanitaires, douche, WC, et un peu si on veut utiliser tout ce qui est la partie cuisine, et se servir un peu du matériel qui est à disposition. Donc en fait, c'est surtout pour l'eau et tout ça, voilà, qu'on va payer ce petit tarif. Pour les chiens, c'est gratuit. Il n'y a pas de supplément. Et donc ça, c'est les refuges qui sont affiliés au parc naturel régional Corse. Et après, il y a quelques refuges qui sont privés, où là, c'est des tarifs sont libres. Ça va tourner plus ou moins autour de ces tarifs-là. Généralement, un chouïa plus cher, mais ça va suivre. C'est kiff-kiff.
Et comment tu fais pour savoir si c'est un gîte privé ou affilié au GR ?
Alors en fait, du coup, ben, tu as le site du PNRC, donc du parc régional, te permet du coup de réserver pour les refuges qui sont affiliés au parc. Tu vas pouvoir réserver en ligne. Et en fait, tous les refuges que tu ne vas pas trouver sur le site, c'est les refuges privés. Donc il va falloir, toi, faire tes recherches de ton côté pour pouvoir les contacter pour réserver tes emplacements près de leur refuge.
Ok, je sais pas si tu as l'info ou pas, mais si on prévoit de faire le GR20 hors saison, parce qu'il me semble qu'il y a une saison assez bien définie, est-ce que les emplacements sont également payants ou comme il n'y a pas de gardien, on peut installer son bivouac proche d'un gîte?
Ouais, alors effectivement, ouais, le GR20, enfin, les refuges du coup du GR20 sont ouverts de fin mai à début octobre, grosso modo, ça change d'une année sur l'autre à quelques jours près, mais voilà, dans l'ensemble, c'est ça. Et en fait, c'est pour te donner les périodes où il y a un gardien sur place, où tu vas du coup avoir accès à l'intérieur du refuge avec quelqu'un qui va t'accueillir, qui va proposer des repas, avec une épicerie qui va être ouverte, où tu pourras te réapprovisionner si tu veux être plus ou moins en autonomie dans tes repas, ou compléter un peu ce que tu manges dans la journée. Un site aussi qui va être préparé, où tu vas avoir l'accès un peu plus à l'eau chaude, entre guillemets, eau chaude, parce que c'est pas toujours le cas, plutôt tu sais, de l'eau froide, mais où tu vas avoir un peu accès à tous les sanitaires, où ça va être entretenu, tout ça. Après, en dehors de ces périodes, tu peux toujours te rendre sur le GR20, faire le GR20. C'est plus compliqué parce que ben, ça reste en montagne. Donc, il y a de la neige, l'accès est plus compliqué, les refuges restent ouverts, enfin accessibles plutôt, mais il n'y aura personne sur place. Là, je pense que tu dois pouvoir, comme bah, dans la plupart des refuges, même en métropole, tu dois pouvoir accéder avec ton chien, pouvoir t'abriter et rentrer. Bien évidemment, ben, comme partout, hein, on respecte les lieux. On fait attention, on laisse l'endroit propre tel qu'il était quand on est arrivé. Mais ouais, tu peux y accéder. J'ai vu quelqu'un d'ailleurs récemment qui avait fait le GR20 bah là, en plein hiver, sous la neige. Bon, bien équipé, hein, quelqu'un qui connaissait bien les lieux et qui est parti faire le GR bah, et qui s'est du coup abrité dans ses refuges qui étaient disponibles. Mais du coup, bah, si tu pars en dehors des périodes d'ouverture, effectivement, l'accès est gratuit, tu vas pouvoir y aller. Après, dormir dehors, dans la neige, en dehors des périodes d'ouverture, tant qu'à faire, s'il y a le refuge qui est accessible, parce qu'on est mis au chaud, à l'abri du bord du froid de la neige.
Bon, après, la neige n'est pas forcément présente en dehors de la période.
Il y en a quand même beaucoup. Hein. Nous, d'ailleurs, on a bien réfléchi à la période où on allait partir. C'était un petit peu... Ça a été un peu notre grand dilemme de savoir à quel moment on partirait. Parce que, ben, en plein été, c'est sûr, il n'y a pas de neige. Mais en fait, il fait très, très chaud. Et nous, ben, on a un chien poil long, donc... compliqué pour lui de suivre, sachant que les températures en journée, ben, c'est un peu comme celle du sud de la France. On monte à 30-35 degrés facilement, voire plus au soleil. Début de saison, ben, là, il y a des endroits où il y a encore de la neige. Parfois, il faut un peu s'équiper, crampons, piolets. C'est un peu technique, donc il faut savoir quand même utiliser tout ce matériel pour être en sécurité. Puis, il faut être ben, équipé parce que s'il fait plus froid, c'est de la neige. Ben, au niveau du sac, forcément, on a des choses un peu plus lourdes pour tenir un peu plus chaud. Et fin de saison, ben, au niveau des températures, c'est chouette. Les températures redescendent, on est un peu mieux. Mais par contre, ben, vu qu'il y a eu l'été qui est passé par là, tous les cours d'eau sont un peu à sec. Les sources, c'est un peu plus compliqué pour s'approvisionner. Quand on est seul, je pense qu'on peut se gérer. Mais quand on a un chien, ben, c'est un peu plus compliqué. Il faut être sûr d'avoir de l'eau, de pouvoir la rafraîchir, de pouvoir l'hydrater un peu tout le long. Donc, nous, on a choisi une début de saison. On s'est dit, on va partir farmer un peu à l'ouverture des refuges. On va tenter. L'année dernière, c'était une année où l'hiver avait été très doux, où il y avait eu peu de neige. Donc, on s'est dit, avec un peu de chance, on n'aura pas trop de neige sur le GR20. Et ce qu'on a fait, du coup, c'est que faut savoir que le GR20, généralement, la plupart des personnes, elles le font en partant du nord en allant vers le sud. Nous, on a décidé de le faire en sens inverse, de partir du sud et d'aller vers le nord parce que le nord est un peu plus haut en altitude. On s'est dit que on avancerait dans la progression, on commencerait fin mai sur la partie sud où il y a un peu moins de neige, voire pas du tout, plus du tout à cette période-là, mais qu'on avancerait vers la partie nord et que ça laisserait le temps un peu à la neige de fondre et il ne resterait plus grand-chose quand on arrivera à cette partie-là sur le début vent. C'est un choix un peu stratégique qu'on s'est fait. On avait réfléchi un petit peu comme ça. Après, il y en a peut-être d'autres qui préfèrent partir à d'autres périodes, mais nous, c'était ce qui nous semblait le plus approprié du coup avec Rio et par rapport aussi à notre niveau et à ce qu'on supportait au niveau des températures.
Du coup, on a parlé de votre entraînement, du matériel que vous aviez choisi et de l'organisation de manière globale, la période à laquelle vous vouliez partir, etc. Du coup, je reviens un petit peu en arrière. Comment vous êtes allé en Corse et comment ça s'est passé pour Rio ?
Nous, on a de la chance d'habiter du côté de Toulon. Donc, il y a des bateaux qui partent de Toulon pour se rendre en Corse. Alors, il faut savoir que pour aller en Corse, il y a deux possibilités, donc le bateau ou l'avion. J'ai vu dans un de tes podcasts, du coup, avec Laura et son chien Koda, vous aviez déjà parlé du transport en avion pour aller en Corse.
Tout à fait, c'est le tout premier épisode.
C'est ça, ouais. Donc, moi, je vais juste parler du bateau. Donc, il y a trois compagnies possibles pour se rendre en Corse. Il y a la Méridionale, il y a Corsica Linea, qui sont un peu moins connues toutes les deux, et la plus connue des trois, du coup, Corsica Ferry. Moi, c'est celle que je conseille. C'est la seule où le chien, en fait, est accepté dans l'espace voyageur, en fait, où on peut l'emmener partout avec nous. Il a accès quasiment à tout. Il y a uniquement les restaurants, l'intérieur des restaurants où il ne peut pas accéder, mais il peut accéder à la cafétéria. Il y a des cabines qui sont spécifiques que l'on peut réserver du coup pour dormir, pour se poser et où du coup le chien est accepté. Sur le bateau, il y a de la moquette un petit peu partout et en fait, ces cabines, elles sont spécifiques. Il y a un revêtement dans une sorte de lino qui permet de mieux nettoyer pour l'hygiène. Voilà. Le chien est censé être muselé sur le bateau. Alors, il y a une tolérance. La plupart des gens, ils ne muselent pas. Moi, je l'avais mis autour du cou. Les gens sont très sympas. Si le chien est cool, franchement, ils ne nous disent rien. Ils acceptent totalement que le chien ne soit pas muselé. Mais voilà, dans le règlement, il faut savoir que normalement, il faut avoir le chien muselé sur le bateau. Par contre, évidemment, chien toujours attaché, on ne va pas laisser le chien déambuler sur le bateau n'importe où. Ça peut être dangereux pour lui, il pourrait tomber à l'eau, il pourrait le perdre parce que le bateau est très très grand. On ne le laisse pas aller embêter les gens. Voilà. Si le chien est un peu stressé, un peu bruyant, ça, on essaye de s'isoler un petit peu, de se mettre à l'écart. Ça peut être impressionnant pour les chiens qui n'ont jamais pris le bateau. Il y a beaucoup de monde, il y a d'autres chiens, il y a du bruit, il y a le mouvement de la mer aussi. Voilà. Donc, faire attention à ça. Chose très sympa aussi, sur le bateau, il y a deux espaces, peut-être même plus, mais moi j'en ai repéré deux. Espaces hygiéniques pour les chiens qui permettent aux chiens d'aller faire leurs besoins. C'est une sorte de petit carré sur le pont avec des galets, un petit poteau métallique pour que les chiens puissent faire pipi, lever la patte. Donc, c'est bien fait. Je vous avoue, il n'y a pas beaucoup de chiens qui arrivent à faire pipi dessus, à faire leurs besoins dessus. Moi, je sais que Rio, on avait prévu, on l'a fait faire ses besoins, on avait fait la petite balade hygiénique avant de monter sur le bateau. Dans le petit espace hygiénique, il n'a jamais voulu faire. Heureusement que la traversée ne dure pas trop longtemps, mais c'est pas évident pour tous les chiens de faire à cet endroit-là. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment faire dans l'air et tout, donc le petit galet sur le bateau, c'est pas l'endroit le plus idéal. Mais voilà, c'est déjà très cool d'avoir ça. Après, ce qui est chouette aussi sur le Corsica Ferry, c'est que chiens de première catégorie et chiens de deuxième catégorie, ils sont acceptés. Par contre, eux, c'est muselière obligatoire. Donc, c'est vraiment très chouette. Ça permet à tout le monde, du coup, de se prendre en Corse. Hein. Au niveau du tarif, on est sur 17 € pour le chien. Donc, franchement, je trouve que c'est totalement accessible. Pour nous, ça, franchement, ça dépend vraiment de la période. Ça peut être accessible, une petite centaine d'euros, voire moins par personne. Comme ça peut vite monter très très cher, 200, 300, 400, 500 euros selon la période, selon si on se prend au dernier moment. Un trajet plus ou moins rapide, si on prend la cabine, pareil, ça rajoute aussi un peu financièrement. Si on prend le véhicule aussi, ça rajoute. C'est la possibilité de prendre sa voiture aussi pour se rendre en Corse. Donc voilà, les tarifs vraiment peuvent varier, être très accessibles comme très très cher.
Oui, un peu comme l'avion, au final, c'est super variable. Et le trajet dure combien de temps?
Ça dépend d'où on part. Il y a plusieurs points de départ de France ou d'Italie. On est parti de Toulon et après, selon où on arrive en Corse, parce que pas tout le monde va faire le GR20 en Corse, hein. Selon où on arrive en Corse, ça va faire varier la distance. Il y a plusieurs points d'arrivée en Corse et tu peux du coup avoir un trajet entre 5 et 14 heures selon le lieu de départ, le lieu d'arrivée et si tu pars de jour ou de nuit. Je sais que de nuit, ça navigue un peu plus lentement. Nous, on a fait Toulon-Porto Vecchio. Alors, je suis désolée pour le mauvais accent très métropolitain que j'ai. Les Corses qui m'écoutent, désolée. Hein. On a eu une navigation qui a duré 12 heures, si je ne dis pas de bêtises. Donc, nous, on a décidé un voyage sur la nuit. On est parti en fin de journée. Vu qu'on habite du côté de Toulon, du coup, il y a la grand-mère de Vincent qui nous a déposé à la gare maritime, du coup, avec Rio. Fin de journée, fin d'après-midi, aux alentours de 17h. On avait l'embarquement à 18h. Ça nous permettait un peu de défouler Rio, faire le dernier petit pipi, tout ça. Le détendre un petit peu, le défouler un petit peu avant de partir. Donc, on est monté sur le bateau, on a embarqué, vérifié les papiers, bien pensé à prendre carnet de vaccination et passeport. Enfin, moi, j'avais pris les deux, mais je crois que juste le carnet de vaccination ou le passeport, ça suffit pour le chien. Donc, il vérifie les papiers. Après, tout le monde embarque. Lui, on s'était aller sur le pont, regarder la mer. Lio, il aimait bien regarder. Il faisait un petit peu sa commère et regardait comment on montait. Il y a le départ du bateau, du ferry qui se fait. Donc, c'est très, très sympa à regarder. On est en hauteur, c'est des très gros bateaux. Donc, on a vraiment toute la rade qui est visible. C'est très joli à voir. Et après, vu qu'on avait réservé notre cabine, étant donné qu'on passait la nuit sur le bateau, on est allé vers la cabine tranquillement. On a installé nos affaires. On a mis un peu à l'aise Rio. On lui a présenté, montré un peu les lieux. Tout de suite, très à l'aise. Il est monté sur le lit. Il s'est calé. Et voilà, il s'est posé, il était bien, pas de soucis. On a grignoté un petit bout, on a un nouveau budget, vu que entre l'investissement du matériel, le bateau, les locations, tout ça, ça coûtait tout de suite un peu cher. Ça reste un budget, même si on se dit on va juste randonner, mais finalement, c'est pas un trek qui est accessible au petit budget. Il y a quand même un petit investissement. Après, tout ce qui est matériel, ça va resservir, mais c'est vrai que tout ce qui est les réservations sur place, le bateau, et puis les petits à côté, ça va vite coûter cher. Voilà. Et du coup, donc, nous, on avait quand même limité, on s'était pris notre petit casse-croûte pour le soir, donc on a mangé dans la cabine. Après, on s'est posé tranquillement, on s'est dit qu'on allait se coucher tôt parce que le lendemain, le bateau arrivait à 6h. Il y a les alarmes du bateau du coup qui réveillent tout le monde à 5h. Tout le monde sur le pont. Donc, pour libérer les chambres, on a fait une heure avant la descente du bateau. Et donc, on est arrivé vers 6h pour débarquer à Porto Vecchio. Donc, au niveau du premier trajet, ça s'est passé comme ça. Ensuite, ce qu'on avait fait, c'est que je m'étais pris quand même quelques temps avant, mais j'avais réservé un taxi pour qu'on se rende au point de départ du GR20. Parce que sinon, il y avait quand même beaucoup de marches. Et on s'est dit, bon, on a quand même le GR20 dans les pattes qui va suivre. Si on commence à randonner encore avant d'y aller, ça va nous compliquer un peu la tâche. Donc du coup, j'avais réservé un taxi quelques semaines avant. Faut s'y prendre quand même en avance parce que bon, un taxi dog friendly, c'est pas évident à trouver. J'ai passé pas mal d'appels, c'était très compliqué. On renvoyait vers d'autres personnes qui m'ont renvoyé vers d'autres personnes. Donc j'ai mis un peu de temps à trouver quelqu'un qui a accepté de nous prendre avec le chien. Surtout que c'est pas un petit chien qui rentre dans un petit sac pour protéger tout ça. Donc on a fini par trouver un monsieur qui a été très sympa, qui a accepté de nous prendre. Alors évidemment, on paye un petit supplément parce que forcément, prendre un chien dans la voiture et derrière, au monsieur, ça lui demande de repasser, nettoyer sa voiture, aspirer tous les poils, tout ça. Donc perte de temps, perte de clients. Donc voilà, pareil là, à prévoir, ça coûte un peu plus cher que si on est juste des humains. Mais franchement, très sympa de savoir qu'il y a des taxis qui acceptent de prendre les chiens parce que sinon, ça aurait compliqué un petit peu la chose aussi. Je sais qu'il y en a qui font du stop pour aller jusqu'au point de départ, en partant du bateau, qui vont jusqu'au point de départ en stop. Mais bon, là encore, on s'est dit, on est deux avec un chien, les gros sacs à dos et tout. Enfin, ça peut être plus compliqué, on peut perdre beaucoup de temps. On arrivait tôt le matin en Corse et en fait, on voulait vraiment profiter du fait que ce soit tôt pour commencer très rapidement le GR20 à la fraîche parce que la journée elle chauffe très très vite quoi.
Super. Du coup, là vous arrivez au point de départ et qu'est-ce qui se passe?
Donc le taxi nous dépose, ensuite donc une autre petite marche. Donc en fait sur le GR20 comme sur beaucoup de randonnées en fait, il y a des tracés. Donc le tracé du GR20 en Corse, c'est des bandes rouges et blanches. Donc on suivait nos petites traces, on commence. Donc il faisait à peu près frais parce que finalement, il était déjà 7h30 le temps qu'on arrive sur le point de départ, ça avait déjà commencé à bien se réchauffer. Et en fait, Rio trop content. Au début, on l'avait un petit peu attaché pour lui montrer qu'il fallait pas non plus qu'il court dans tous les sens et qu'il commence déjà à se fatiguer parce que les chats ils sont trop contents d'être dehors. d'être dans la nature. Et puis, ils vont dans tous les sens. Ils font beaucoup plus de kilomètres que nous. Ils partent en avant, ils reviennent nous voir, ils repartent, ils reviennent. Et c'est vrai qu'ils se fatiguent très vite. Donc, au début, on l'avait un petit peu attaché pour lui montrer qu'il fallait qu'il s'économise. Et puis, en fait, après, on l'a mis en libre. On croisait quelques personnes sur le GR. Très chouette. Donc, on est parti un peu comme des fleurs, ce que je disais tout à l'heure, en regardant le paysage, en admirant, en prenant plein de photos, en s'arrêtant un peu partout. Et puis, finalement, on a vu le temps passer, la journée qui se réchauffe, de moins en moins de cours d'eau, on croit des gens fatigués et tout. Et là, on s'est dit, bon, ben, quand est-ce qu'on arrive? On n'a plus trop d'eau, il fait très chaud. On a explosé le topo guide. Ils avaient annoncé un peu plus de 6 heures sur le topo guide. Donc, c'est le petit livre qui référence les grandes randonnées. Et donc, on avait celui du Gervin et ils avaient annoncé 6 heures et quart, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, on était déjà à 7 heures et demie de marche. Et on s'est dit, quand est-ce qu'on arrive? On s'est dit, on a un rythme de débutant, c'est pas possible. Et en fait, on s'est fait une dernière grosse monte. Et puis, on est arrivé au refuge. Et là, on était soulagés. De dire, ah, ça y est, on est arrivé, on va pouvoir boire. On n'est plus obligé de se rationner au niveau de l'eau. On va pouvoir se reposer et tout. Parce que ça avait été vraiment une journée, finalement, intense émotionnellement. Parce qu'on a beau se préparer au Gervin. On sait, on voit partout les témoignages des gens. On se dit, c'est difficile. Il y a du dénivelé, le physique, oui, ça compte l'entraînement, mais le mental, il va faire beaucoup. Et on a beau savoir tout ça, voir tout ça, se renseigner, se mettre un peu en condition, mais en fait, tant qu'on n'y est pas, on ne se rend pas réellement compte de la difficulté, de la réalité. Et là, on se dit, ah, ouais, c'est ça qui nous attend pendant tous ces jours. Donc, on était très contents d'arriver au refuge et très contents de se reposer. Et on s'est dit, bon, dans les prochains jours, il va falloir qu'on se booste un petit peu, qu'on prenne finalement un peu moins le temps. Et voilà, il va falloir y aller, quoi. Si on ne va pas se faire des grosses journées. Et puis surtout, ce qui nous inquiétait le plus, c'était qu'on était arrivés très tard. Il avait fait très chaud. On commence assez bas, hein, parce que Konka, ça reste assez bas au niveau de l'altitude. Et du coup, forcément, le temps d'arriver un peu dans les montagnes, il fait un peu plus chaud que quand on est dans les hautes altitudes. Donc, ça avait été un petit peu compliqué pour Rio, les moments en plein soleil. Donc, on s'était dit, bon, il va falloir adapter un peu nos journées, partir un peu plus tôt, voire vraiment plus tôt, et pour arriver le plus tôt possible dans la journée et pas être au gros pic de température, pas être en train de randonner en plein soleil avec le chien, quoi. Voilà, donc première journée, ça a été vraiment... On s'est dit, ouais, ok, c'est ça le GR, il va falloir s'adapter, il va falloir un peu revoir nos plans sur nos journées, notre organisation, notre rythme, tout ça.
Tu rentres dans le vif du sujet dès le premier jour, quoi.
Ouais, c'est ça. Et puis, quand on arrive au refuge, c'est premier arrivé, premier servi hein, sur les emplacements. Place nos tentes, nous, on a de la place, sachant que la Corse, c'est voilà, très rocailleux, donc très compliqué, il faut trouver des endroits plats parce que... Là, sans trop de rochers, parce qu'il ne faut pas dormir en pente, sinon ce n'est pas très confort. Il ne faut pas dormir en plein milieu avec un caillou dans le dos, parce que sinon, voilà, génial, la nuit. Plus nous, on avait une tente 3 places. Donc, c'est une grande tente, ça prend beaucoup de place. Donc forcément, des emplacements qui peuvent accueillir une tente 3 places, ce n'est pas toujours évident à trouver. Il y a des étapes où on a un petit peu galéré à trouver pour se placer. Donc c'est pour ça, première journée, on s'est dit, bon, il va falloir qu'on soit un peu plus rapide pour les prochains jours. Donc voilà, donc on est arrivé au refuge milieu d'après-midi, si je dis pas de bêtises. Et en fait, après on prend notre petit rituel, premier jour, on arrive, on va dire bonjour aux gardiens du refuge. On a réservé du coup nos repas pour le soir. Parce que nous, du coup, on avait décidé de manger les plats préparés par le gardien. Voilà. Ah oui, chose importante à savoir aussi, c'est que du coup, les budgets, parce que j'ai parlé du tarif des locations, des emplacements bivouac, mais les repas sont pas donnés aussi. Mais finalement, quand on sait comme c'est compliqué pour eux de se faire réapprovisionner, on comprend plus les tarifs. Parce qu'en fait, il faut savoir que les refuges, la plupart, ils sont positionnés dans un endroit très escarpé, difficilement accessible. Donc, pour certains, les plus privilégiés, ils vont être réapprovisionnés par des 4x4. Mais pour les moins privilégiés, ça va être annulé, voire pour les plus compliqués, approvisionnement en hélicoptère. Après, c'est le soir, hyper convivial. Il y a tout le monde qui parle de ses journées. On croise les gens qui sont dans le même sens que nous, qui nous parlent de leurs difficultés aussi qu'ils ont rencontrées sur leur journée. On croise les gens qui sont au sens inverse. Du coup, là, en l'occurrence, qui sont sur la fin. Eux, ils viennent d'atteindre leur dernier refuge. Demain, c'est leur dernière journée. On voit qu'ils sont à la fois très content de finir, épuisé, et en même temps, on voit qu'il y a toute l'émotion aussi de finir cette grande aventure qui est très très chouette à vivre. Donc, il y a tout ça. C'est vraiment très sympa d'échanger avec tout le monde, de partager ces moments-là. On mange généralement très tôt. Pour les refuges, où on a mangé plus tôt, ça a été aux alentours de 18h. Et les plus tardifs, je crois, ça a été vers 20h. Grosso modo, à 21h, il y a tout le monde qui est couché, qui dort, voire même avant. Tout le monde est bien fatigué de la journée. Nous, c'est vrai qu'on se couchait bientôt parce qu'en plus, le lendemain matin, on repartait très tôt aussi pour pouvoir profiter de la fraîcheur. Et en fait, entre le moment où on est arrivé sur le refuge et en attendant le repas du soir, on en profitait, on faisait un peu nos lessives pour le linge parce que on limite au niveau de la quantité de linge pour pouvoir avoir le moins de choses possible dans le sac. Donc, il y a toutes nos petites lessives qu'on faisait, on allait se doucher. Alors, il y a quelques petits refuges où on va avoir la chance d'avoir de l'eau tiède, voire chaude, mais ça, c'est très rare. Et en fait, la plupart des autres refuges, l'eau va être froide, voire glaciale. Et encore plus, si on arrive les derniers, forcément, il n'y a plus rien. Parce qu'il y en a beaucoup de refuges qui sont alimentés par panneaux solaires. Donc, c'est pareil, hein, l'eau va chauffer. Premier arrivé, premier servi, c'est un peu comme les emplacements de tente. Donc, la plupart du temps, on a eu droit à des douches glacées. Alors, l'avantage, c'est que pour les muscles, hein, ça fait vraiment du bien, ça détend tout, c'est bon, les courbatures, ça aide à limiter. Mais c'est vrai que les premières fois, ça surprend. Quand tu viens de te faire la journée de marche et que tu dois aller te laver, des fois, tu hésites un peu à deux fois, tu te dis, bon, allez, c'est parce que vraiment j'ai transpiré, l'effort a été intense de la journée, que je vais me sentir un peu propre. Mais c'est vrai que ça m'est arrivé une fois ou deux de prendre un gant et de me laver au gant et de me rincer, on va dire grossièrement, parce que j'étais fatiguée et c'était vraiment glacé. C'est l'eau de source qui arrive, notamment sur le premier refuge, c'était vraiment l'eau de source qui arrivait. Et franchement, elle est aussi froide que l'eau des montagnes. Enfin, c'est en montagne, et elle est vraiment très très froide. Et je ne sais pas à combien elle est, mais tous les gens qui allaient se doucher, on les entendait crier sous la douche. Et franchement, c'était pas de plaisir. Hein. C'était plus à cause du froid. Donc, voilà. Non, c'est vrai qu'il faut le savoir aussi. C'est pas toujours évident les conditions de ce côté-là au niveau des sanitaires. Pareil au niveau des toilettes, il y a un peu de tout. On a eu beaucoup des WC et des toilettes sèches. C'était d'ailleurs la plupart du temps ça. Des endroits où c'était plus ou moins bien aménagé. Mais dans l'ensemble, c'était correct.
Donc vous aviez prévu votre GR sur 15 à 16 jours, mais ça se finit plus tôt que prévu.
Oui, en fait, notre première journée, voilà, un peu difficile pour se mettre dedans, tout ça. Deuxième journée, on a commencé à monter en altitude. Super sympa, on a un peu plus pris le rythme, vraiment super GF. Et puis petit à petit qu'on avançait, malgré qu'on monte en montagne, on a commencé à croiser pas mal de sources qui étaient à sec, à croiser des guides qui étaient habitués au Gervin, qui nous disaient que les températures, elles étaient vraiment incroyables pour la période. Ils arrivaient, eux, du nord parce qu'ils étaient en sens inverse. Et en fait, ils nous disaient que normalement, là où il y a encore beaucoup de neige, là, il y en a quasiment plus, voire plus du tout. Qu'ils ont croisé beaucoup de sources déjà secs, alors que normalement, elles ne se sèchent que dans l'été. Et les températures actuelles, elles étaient déjà comme si on était en plein mois de juillet-août. Donc, ils étaient vraiment inquiets pour la saison. Et du coup, on a quand même réfléchi parce que on part pas tout seul, on est deux, mais pas que. Il y a Rio aussi qui nous accompagne. Et en fait, le but, c'est de partir à trois et de revenir à trois.
Donc ça, c'était dès le jour 2 où vous vous êtes posé des questions?
Non, on s'est posé des questions, si je ne dis pas des bêtises, aux alentours du jour 4. Et du coup, on a réfléchi, on a quand même discuté et on s'est dit, les guides nous ont dit qu'il faisait déjà très chaud, que la partie nord, il y avait déjà plus de neige. Et en plus, qu'ils annonçaient des augmentations pardon, de température sur la semaine suivante. Ils annonçaient plus 5 degrés en moyenne. Et en fait, on s'est dit, ouais, ça ne va pas être possible avec Rio parce que. On passait des super moments, on se levait très tôt, on arrivait du coup quand même assez tôt finalement, on avait réussi à trouver notre rythme et à s'organiser sur nos journées. Mais en fait, plus 5 degrés en plein soleil, parce que la partie nord du coup c'est beaucoup des crêtes sur les rochers, avec un peu moins d'ombre, un peu moins de cours d'eau du coup aussi. Et on s'est dit, ouais, ça va être trop compliqué. Et il faut pas qu'il y ait un accident, faut pas qu'il fasse un coup de chaleur, parce que l'accès au vétérinaire, c'est un peu plus compliqué, quoi. Hein. Je me vois mal appeler un hélicoptère pour emmener le chien chez le véto. Enfin, c'est, à mon avis, c'est compliqué. Donc voilà, fallait penser aussi à ça. Et donc, oui, je crois que c'est le cinquième jour. On s'est dit, bon, ben, on finit notre première moitié du GR20, donc, qui se termine du coup à la fin du septième jour. Parce qu'on arrive, en fait, le GR20, du coup, il est divisé en deux parties, le sud et le nord. Et en fait, entre les deux, on arrive à Vidzavon, où là, ben, y a une petite gare ferroviaire du coup qui nous emmène en fait un peu partout en Corse. Et du coup, on s'est dit, ben, on va profiter de cette fin de moitié de GR pour prendre le train et pour rentrer chez nous. Voilà, mettre un terme à notre aventure, à la finir un peu plus tôt, mais rentrer tous ensemble en bonne santé, sans accident.
Mais c'est pour ça que je trouvais ça super intéressant d'en discuter, parce que, enfin, avec chien ou sans chien, ça fait partie aussi de l'aventure de, des fois, devoir renoncer, annuler, finir plus tôt, parce que, bah, la météo, la santé, enfin, ce qu'on veut, il peut y avoir vraiment plein de choses différentes. Je trouvais ça bien, tu vois, le fait que tu te questionnes sur la condition physique de ton chien, à quel point il peut continuer à suivre ou pas, et de préférer arrêter plutôt que de courir un risque qui peut être très dangereux pour lui, quoi.
Ouais, c'est exactement ça. On était un peu déçus, hein, parce que forcément, quand on s'est mis en tête de partir sur 15 jours, de faire le GR20 en entier, c'était un peu notre petit objectif. Mais finalement, on était très contents de nous, très contents de Rio, parce qu'il a super bien suivi, voire même c'est lui qui nous attendait, parce que lui, il était toujours devant. Voire même, il râlait quand il nous attendait et qu'on était trop lent pour lui. Mais vraiment, on a été super fiers de lui, on était très contents de nous aussi, parce que bah, finalement, c'était notre première grosse aventure de ce genre, avec autant de poids sur le dos. Et puis bon, c'est que partie remise, parce que rien ne nous empêche de repartir, du coup, faire la partie nord avec Rio. Une prochaine fois. Maintenant, c'est un peu plus à quoi s'attendre au niveau du matériel. On a un peu plus d'idées aussi sur ce qu'on prendrait et ce qu'on ne prendrait pas. Et voilà, et on organiserait mieux la chose, sûrement.
Et ce qui est super encourageant aussi, quand tu dis que Rio, il continuait d'être devant, à vous attendre et à râler au bout de 7 jours, ce qui est quand même pas rien, 7 jours de randonnée comme ça sans s'arrêter, tu sais que bah, il peut vraiment suivre bah, les 15 jours sans problème, quoi.
Ouais, c'est ça. Vraiment, sur la journée, on partait le matin, on voyait qu'il avait la grande motivation, il était à fond et tout. Et c'est vrai que quand on arrivait un peu aux heures un peu chaudes, aux alentours de midi, 1h, on voyait que le rythme, il était un peu moins soutenu sur les derniers jours, quand il a commencé à faire très chaud. Il y avait un peu moins de cours d'eau, pas mal de cours d'eau sec, donc il pouvait un peu moins se rafraîchir. C'est ça aussi qui nous a fait dire, bon, il est moins enthousiaste sur toute la journée, alors qu'au début, il était vraiment enthousiaste toute la journée. Là, on voit vraiment qu'il a chaud. Il prenait un peu d'avance, il s'arrêtait sur tous les points d'ombre qu'il pouvait trouver. Et là, bon, c'est ce qui nous a fait dire, bon, pour nous, c'est dur, mais pour lui, il peut pas parler. Et vraiment, en le regardant, en l'observant, on connaît notre animal. Et on se rend compte qu'il kiffe, hein, il adore balader toute la journée, courir, sauter. Mais vraiment, on voyait que la chaleur, ça commençait à rendre les étapes un peu plus difficiles quand on avançait la journée. Il faut savoir que du coup, on partait très très tôt. Il y a même un matin, on s'est levé à 3h30 pour partir, pour profiter de la fraîcheur. On partait aux alentours de 4-5 heures sur nos étapes. La plupart du temps, on démarrait nos étapes à la frontale. Parce que la nuit, il faisait très frais. Ça nous arrivait d'avoir du givre sur la tente au réveil. Donc, des nuits vraiment fraîches, d'où nos UV aussi 0 degré. Et après, par contre, la journée, ça montait très très vite, aux alentours de 25 degrés, peut-être même plus par endroit. Bon, voilà. Quand on est au repos, 25 degrés, on le supporte bien. Mais quand on marche en plein soleil, avec l'effort, tout ça, les dénivelés, la durée... Ça se supporte un petit peu moins bien et il faut penser aussi à nos chiens, sinon on a du mal à supporter. Eux, c'est aussi leur cas, en plus avec leurs poils. Nous, on se découvrait, je commençais le matin, j'avais pas mal de couches en dos parce qu'il faisait vraiment frais. Lui, il était trop content, il sautait partout. Ça lui allait bien, la fraîcheur. Et puis au fur et à mesure de la journée, nous, on se découvrait. Et puis c'est vrai qu'eux, ils peuvent pas se découvrir, c'est pas comme nous, ils ventilent un peu moins bien.
Au moins, vous pouviez profiter de beaux levers de soleil pendant votre trek.
Ah ouais, on a eu des levers de soleil vraiment incroyables, surtout quand on était sur les crêtes. C'est des couleurs franchement sublimes, avec des mers de nuages. À certains endroits, on voyait la mer au loin, la mer de nuages, les lumières du soleil. C'était franchement sublime. On avait l'impression que tout s'embrasait, des couleurs. C'est quelque chose qu'on voit pas partout, quoi.
On n'a pas fini votre aventure. Vous êtes arrêté donc à la moitié du GR20. Vous avez pris un train pour aller où? Comment vous avez fait pour rentrer ensuite?
Alors oui, effectivement, donc on est allé jusqu'à Vézavon. Et là, du coup, il y a une gare ferroviaire dans le petit village, je vais dire. Donc en fait, on s'est organisé, on avait pris des billets de bateau modifiables. Donc ça, c'est très important parce qu'il faut quand même se dire, on ne sait jamais le GR20, si finalement on se blesse, si finalement, enfin, pour X ou Y raison, on peut l'interrompre plus tôt. Donc il faut quand même prévoir de pouvoir partir plus tôt si jamais. Autant au niveau des dates que du lieu, du coup, de départ. Parce qu'à la base, bah forcément, quand tu prévois de traverser toute la Corse, donc nous, on commençait tout en bas, on remontait tout en haut. On avait prévu un retour par le ferry en partant d'Île-Rousse, qui est située tout en haut de la Corse. Et finalement, bah, quand on arrive qu'à la moitié, il faut s'organiser et se dire, bon, bah, d'où on part? Donc, à Vézavon, on a regardé les billets de train. Et en fait, il y avait un train qui partait 2 heures plus tard pour Ajaccio. Au niveau des tarifs, je ne saurais plus dire, mais c'était très accessible pour les chiens et pour les humains. Ce n'était pas des tarifs exorbitants, c'était une petite dizaine d'euros, quelque chose comme ça. Et du coup, on a pris notre train pour aller jusqu'à Ajaccio. On a modifié notre bateau et on est reparti en fin de journée par le bateau. Donc entre-temps, bah, on a un petit peu baladé à Ajaccio, on a profité pour acheter quelques petits fromages, des petites charcuteries, des petits produits locaux pour se faire plaisir après notre grande randonnée. Et on est rentré par le bateau. Alors là, l'inconvénient, c'est que du coup, bah, vu que c'est un voyage un peu prévu en dernière minute, un changement un peu de dernière minute, on n'avait pas de cabine sur place malgré qu'on voyage de nuit. On avait essayé de voir à l'accueil s'il y avait eu des désistements un peu de dernière minute, voir si on pouvait récupérer, mais il n'y avait rien eu. Donc, on s'est calé un peu dans un coin du bateau. Il y a beaucoup de personnes, finalement, pour ceux qui ont déjà pris le bateau pour aller en Corse, ils ont déjà dû voir des personnes qui se calent dans un coin tranquillement pour se reposer. Donc voilà, nous, c'est ce qu'on a fait. On s'est installé dans un petit endroit calme. On avait installé nos matelas, on s'était posé avec Rio et puis on a passé la nuit là tranquillement pour se reposer aussi parce que... Après 7 jours à marcher, on ne se voyait pas faire une nuit blanche et arriver le lendemain matin aux aurores sans avoir dormi. Et après, bah, quelqu'un est venu nous chercher au port de Toulon pour rentrer chez nous tranquillement.
C'est toujours possible de revoir le voyage comme vous l'avez fait. Je trouve que c'était quand même intelligent de se dire c'est une grande rando, on ne sait pas trop ce qui nous attend. Au cas où, on sait réagir, quoi.
Ouais, bah, et puis rien que pour nous, hein, c'est quand même intense physiquement. Et en fait, personne n'est à l'abri d'une entorse, d'une mauvaise chute, ouais, de malaise. Parce que monter, descendre, s'il y a du dénivelé, on monte, on descend, il y a beaucoup de rochers, donc finalement, c'est pas juste de la pente, c'est vraiment plus l'escalade, la désescalade, et au niveau des genoux, des jambes, tout ça, et puis le dos avec le sac à dos, le corps prend un petit peu cher, on va dire physiquement, c'est pas une petite promenade de santé.
Ouais, c'est clair. Donc, petit tips en plus, prenez des billets modifiables, que vous preniez l'avion ou le bateau au cas où. Enfin, après, il est toujours possible de profiter de la Corse différemment, même en quittant le GR20, si jamais vous n'avez pas pris de billets modifiables et que c'est pas possible de finir le GR.
C'est ça. Mais du coup, par contre, ça faut aussi penser que ça rajoute du coup sur le budget, parce que quitter le GR20 dit aussi repartir potentiellement sur de la location, sur une voiture, sur tout ça aussi. Donc, nous, au niveau budget, on avait déjà réservé pas mal de choses. Donc, du coup, on a perdu les réservations. C'est un peu l'inconvénient aussi quand on réserve en avance, du coup, les refuges. On a perdu les réservations, du coup, de la partie nord. Finalement, on préférait perdre les réservations, mais être sûr que quand on arrivait sur place, on avait déjà de quoi dormir et nos petits endroits. Voilà.
Trop bien. Merci en tout cas pour ce chouette partage qui donne vraiment envie d'aller visiter la Corse. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu aurais envie de parler ou... des questions que je t'aurais pas posées sur ce voyage ou autre?
Il y a peut-être des petits points sur la préparation dont j'ai pas parlé, parce qu'on a, on a préparé Rio physiquement en commençant les randonnées, en variant un peu tout ce qui était dénivelé, la durée, tout ça. Mais j'ai pas parlé des coussinets aussi. En Corse, c'est quasiment partout, c'est du granit. On n'en voit pas partout. Les chiens n'ont pas trop l'habitude de marcher dessus. Il y a beaucoup de rochers. C'est très abrasif en fait. Et du coup, nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait quand même préparé les coussinets de Rio avec un produit qui s'appelle le Solipat. Donc, à peu près 3 semaines avant de partir, on mettait tous les soirs un petit peu de Solipat sur ces coussinets. Donc, c'est un produit qui permet de renforcer la couche cornée en la rendant plus résistante, mais en même temps en gardant la souplesse. Voilà, pour qu'elle s'use un peu moins. Sur les journées de marche, parce que finalement, on a les préparé physiquement, mais il n'y a pas d'équivalence, on va dire. Enfin, à part faire le GR20 plusieurs fois, sinon il n'y a pas d'équivalence au niveau intensité, au niveau effort. Et même si en randonnée, on n'est pas parti 15 jours à marcher dans du granit, à faire les mêmes dénivelés, à faire les mêmes journées de marche. Donc voilà. Donc dans tous les cas, il faut savoir que le chien, il sera un peu moins préparé que que sur le GR, quoi. C'est pas la même intensité non plus. Donc voilà, donc les coussinets, ça fait partie. On avait prévu, du coup, bah, j'en ai parlé, des petits chaussons au cas où, des petits chaussons pour chien à mettre, parce que si jamais le chien s'abîme les coussinets, s'irrite, tout ça, il faut pouvoir protéger au cas où. Parce que se retrouver avec un chien qui est sur trois pattes, qui ne peut plus marcher, le nôtre, il fait 20 kilos. Donc, une portée nos sacs, plus le chien, ça complique un petit peu les choses. On avait pris quatre petits chaussons au cas où. Bon, finalement, on a eu de la chance, on n'a pas eu besoin de s'en servir. Il y a eu une étape où ça avait été beaucoup d'escalade dans les rochers, beaucoup de sauts sur des rochers en granit, où à la fin de la journée, ça avait été un petit peu irrité. Et en fait, sur toutes les étapes, en fait, quand on arrivait en fin d'étape, je lui mettais du baume hydratant. Je ramassais bien un peu tout. Et du coup, le lendemain de cette étape où il avait eu les coussinets irrités, ben finalement, ça avait été nickel. Il était à l'aise. Ça avait vite cicatrisé et j'ai pas eu besoin de lui mettre ses petits chaussons. Mais il faut quand même les prévoir. J'avais parlé aussi de la muselière. Les transports en commun, donc du coup, le bateau, chien de catégorie, faut le mettre. Sinon, pour les autres chiens, c'est toléré que ce soit pas mis, même si dans le règlement, ils le demandent. Mais sinon, ils ont une bonne tolérance là-dessus. Ils acceptent que les chiens ne le portent pas. Nous, on avait prévu la muselière, bon, déjà au cas où on nous la demanderait, mais aussi pour le taxi, si jamais monsieur du taxi, il a peur des chiens, il préfère qu'on mette la muselière. Et du coup, si jamais on prenait le train en cas d'arrêt inopiné de GR, donc on a bien fait, puisqu'on s'est retrouvé à prendre le train à moitié de parcours. Et dans le train, par contre, gare et train, c'est muselière obligatoire. Alors, ce qu'on avait fait, on avait pris une petite muselière en tissu. Alors, moi, c'est pas ce que je conseille. Je préfère celles qui sont bien aérées, bien ventilées, où le chien peut halter, tout ça. Il faut faire aussi économie de poids, économie de place. Il nous fallait quelque chose qui soit pliable, qui soit très léger. Donc, on avait pris une petite muselière en tissu qu'on avait pris du coup dans une taille un petit peu grande. On s'est dit, bon, on la scratchera un peu large. En réalité, ça l'empêchera pas de mordre s'il doit mordre parce qu'elle est un peu grande. Mais bon, on connaît notre chien, voilà, il est très cool et tout, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et du coup, ça lui permettait d'ouvrir la gueule, d'halter. Et on avait préparé ça parce qu'il n'est pas habitué à ça. Donc, on avait habitué à porter la muselière quelques jours avant. Et du coup, ça s'est très bien passé dans le train quand il a fallu lui mettre. Mais c'est vrai qu'il faut aussi penser à ça parce que pas beaucoup de chiens sont habitués à porter la muselière. Et quand on se retrouve en dernière minute à devoir prendre le train et qu'on nous dit « Ah bah c'est muselière obligatoire, si on l'a pas, ça peut être compliqué. » Et en plus, si le chien n'est pas habitué, ça peut être un moment de stress en plus pour lui si en plus il ne connaît pas le train. Après, évidemment, moi je conseille aussi un petit check-up veto pour contrôler, voir avec le veto si le chien est apte à partir sur le jardin parce que c'est quand même très intense. Nous, par précaution, on avait fait faire une petite écho cardiaque à Rio. Après, ça, c'est pas obligatoire, mais c'était par choix personnel. Je me suis dit, si on fait un malaise cardiaque sur le GR, j'ai pas envie de perdre mon chien pour une bêtise. Je préfère pas partir dessus s'il n'est pas apte à le faire. Et une petite séance d'ostéopathie avant et après le GR. Avant, du coup, pour le mettre en condition, vérifier que tout aille bien, qu'il n'y ait pas de blocage. Et après le GR, parce que pareil, ça a été très intense. Il faut le remettre un petit peu d'aplomb, lui faire du bien, des petits massages, tout ça. Voilà, on l'avait un peu chouchouté. Après, chose que j'ai pas parlé aussi, il y a des petites choses qui me viennent aussi au fur et à mesure, mais l'entretien du poil. Alors bon, pour les chiens qui ont du poil court, c'est un peu moins compliqué à gérer, mais pour les chiens qui ont des poils longs, moi je conseille vraiment aux gens de bien faire un entretien du poil un peu poussé avant de partir. Ceux qui n'y sont qui n'ont pas trop l'habitude, qui ne savent pas trop, qui n'hésitent pas à aller voir un toiletteur pour un peu aérer le poil. Mais ceux qui peuvent faire ça à domicile, c'est totalement possible aussi. Nous, on avait bien shampooiné avant de partir, on avait pulsé... Donc c'est un gros sèche-cheveux pour animaux, pulser le poil pour bien aérer, bien décoller le poil mort. Parce que quand on part à des périodes où il fait un petit peu chaud, poil aéré comme ça, ça permet vraiment que ça ventile un petit peu mieux, ils se rafraîchissent un peu plus, ils ont un peu moins chaud. Donc important aussi de ce côté-là, et c'est pour ça aussi qu'on avait pris une petite card sur le GR, ça nous rajoute un petit peu de poids. Mais ça permettait de continuer un peu à aérer son poil, à continuer d'enlever le poil mort parce que on était en pleine mue, et forcément le poil mort qui s'accumule un petit peu, ça garde la chaleur et... Ça respire un petit peu moins pour eux. Il faut penser aussi à ça. Si je peux aussi donner un petit conseil avant de prendre le bateau, du coup. Pas tous les chiens ont l'habitude déjà de prendre le bateau, mais aussi pas tous les chiens supportent les transports en commun et supportent le bateau. Donc, il faut bien penser à donner un petit repas léger plusieurs heures avant aux chiens. Ça limite un peu le mal de mer et les vomissements. Parce que s'ils n'ont pas l'habitude, que vous ne savez pas comment votre chien va réagir, c'est pas cool s'il a le mal de mer qui vous remet un peu tout le voyage. Bien penser à le défouler aussi avant de prendre le bateau, parce que ça dure longtemps, une petite dizaine d'heures. Bien penser à le défouler, à lui faire faire sa petite sortie hygiénique aussi, parce que pas tous les chiens vont accepter de faire sur le bateau dans le petit coin réservé. Et aussi, petite astuce qui peut être pas mal, si vous savez que vous avez un chien qui est malade dans les transports ou très stressée, vous pouvez voir aussi avec votre vétérinaire peut-être pour vous faire prescrire un petit médicament, un petit calmant ou un petit quelque chose pour l'aider dans le mal des transports pour passer... passer le trajet tranquillement. Moi, ce que je conseille, c'est quand même de tester auparavant, voir avec le chien, voir s'il supporte le médicament, parce que c'est pas sur le bateau, si le chien ne supporte pas, qu'on va dire « Ah mince, qu'est-ce que je fais ?» Voilà, donc bien tester avant, mais ça peut être pas mal s'il y a des chiens qui ont le mal de mer. Du coup, au niveau de la pharmacie, alors pour Rio, on avait prévu du coup un Certic, parce que, ben, éthique, hein, y en a partout, même en Corse. On avait prévu une pince à épiler au cas où. On avait prévu aussi un flacon de tromazédil. Alors, je ne sais pas si tu connais, c'est une sorte d'homéopathie liquide où dedans, il y a de l'arnica. C'était pour soulager un peu les courbatures et éventuellement les contusions, si jamais ils se cognaient dans les coups qu'ils pouvaient prendre en sautant. On avait prévu du coup aussi notre petit baume hydratant pour les coussinets et aussi pour la truffe parce que ben, le soleil toute la journée, voilà, ça peut irriter, ça prend le soleil. On avait prévu aussi un petit désinfectant, des petites compresses, tout ce qui est bande cohésive au cas où, si jamais il y avait des petites plaies ou des petites choses à soigner, et une couverture de survie au cas où, qui nous servait à nous ou à lui, si jamais il y avait besoin. C'est important quand même d'avoir une petite pharmacie. On a les vétérinaires qui sont très loin, on avait prévu une liste de vétérinaires au cas où aussi, mais sur le Gerva, après, il faut savoir quand même qu'on est très loin des vétérinaires, si jamais on doit s'y rendre, bah, c'est quand même plusieurs heures, donc je pense qu'il faut savoir gérer aussi les gestes de premier secours, anticiper, connaître son chien et bien voir quand ça commence à pas aller haute. Nous, on a eu à un moment donné une journée où il a fait très très chaud, on était sur les crêtes, pas du tout d'eau sur l'étape et on avait fait énormément de pauses parce qu'on voyait que Rio souffrait un peu plus de la chaleur. Et c'est vrai que du coup, ben, on le rafraîchissait bien en mouillant les pattes, les aisselles, l'entrecuisse, le ventre, tout ça. On faisait beaucoup de pauses. Mais voilà, faut connaître aussi les signes d'un coup de chaud, parce que si notre chien il fait un coup de chaud, enfin voilà, faut pouvoir gérer, pouvoir assumer le truc. Bien anticiper, bien connaître tout ça justement pour anticiper et ne pas arriver jusqu'au coup de chaud, ne pas arriver jusqu'à la blessure.
Ouais, c'est clair. Essayer d'un peu tout prévoir, quoi.
Ouais. Je crois que j'ai un peu fait le tour.
Bah, merci beaucoup pour ton retour d'expérience. Je pense que, enfin, toutes les personnes qui prévoient un GR20, en tout cas avec leur chien, ont vraiment toute l'info nécessaire. Si jamais les personnes qui nous écoutent auraient d'autres questions à te poser, où est-ce qu'ils pourraient éventuellement te contacter ?
Bah, ils peuvent me contacter sur Instagram, par exemple, sur mon compte Fluffy en vadrouille. Et après, bah, qu'ils n'hésitent pas. J'avais mis un peu quelques posts pour parler du GR20, mais qu'ils n'hésitent pas à venir me poser des questions. Il n'y a pas de souci, j'y répondrai avec plaisir. Après, si jamais ils veulent d'autres infos, moi, j'avais fait mes recherches sur Internet. Hein. Donc, il y a deux sites qui sont vraiment bien faits. Le site gr20-info.com où c'est sur ce site-là finalement que j'ai pris la plupart des infos. Alors là, c'est très général. Hein. C'est plus pour le GR20 et pas tant pour le GR20 avec son chien, mais déjà, ça nous donne pas mal d'indications. C'est vraiment très bien fait, très complet. Et après, sur Facebook, pour échanger avec les personnes, il y a le groupe GR20 Infini, où là, c'est très général. Voilà, ça va être pareil, accessible. Enfin, c'est pour tout le monde, même les gens qui n'ont pas de chien. Et un autre groupe qui s'appelle Sur le GR20 avec mon chien, où du coup, ça va être vraiment les propriétaires de chiens qui ont fait le GR20 ou qui veulent le faire avec leur toutou. Et du coup... qui vont parler de leurs expériences, poser leurs questions. Et je trouve que c'est pas mal intéressant. Nous, on s'est beaucoup appuyé sur ces groupes-là. Voilà. Après, sur Internet, il y a beaucoup de personnes qui ont mis des petits témoignages, des blogs, tout ça. Voilà. On prend les infos un peu partout. Et on trouve son petit bonheur. Et après, bien sûr, le topo guide du coup de Corse sur le GR20. Qui est très bien fait aussi, qui nous a un peu compliqué la tâche d'ailleurs, parce que du coup, il était fait en sens inverse de nos étapes, du coup, qui partait du nord et qui allait vers le sud. Donc, il a fallu qu'on remette tout à l'envers quand il nous parlait des descriptions, des tracés, tout ça. Il a fallu qu'on réfléchisse pour remettre dans le sens. Mais voilà, qui est bien fait aussi, qui est très intéressant. Et puis, pas hésiter à échanger avec les locaux, sur le GR20, discuter avec... avec les gardiens des refuges, avec les guides qu'on peut croiser, puis avec les gens qui sont en sens inverse, qui nous donnent plein d'infos. Ce qui est très marrant, c'est que quand on croisait des personnes en sens inverse sur le GR20, on en avait beaucoup qui nous disaient « Ah, oh, vous êtes bientôt arrivés !» Et puis en fait, une heure plus tard, on est toujours en train de marcher et on n'est pas du tout arrivés. Et en fait, il nous restait 2-3 heures de marche. Sur le GR20, on a croisé un monsieur... qui était aussi accompagné de son, accompagné de son chien, qui avait démarré le même jour que nous et du coup qui a fait le GR20 en même temps que nous. On se suivait d'étape en étape. Il n'avait pas du tout le même style de chien que nous. Il avait une sorte de petit Jack Russell, très vif, très dynamique en traction. Il l'avait tout le long en traction. Et bien souvent, c'était marrant parce qu'il partait avant nous. Après nous, pardon, il partait après nous. Nous, on partait bien avant parce qu'on partait très tôt. Il nous doublait sur le GR, sur l'étape. Et il arrivait bien avant nous et son chien, toujours à fond, toujours en train de sauter. Et je pense que lui, il est arrivé à la fin de son GR. Son chien craignait un peu moins la chaleur que le nôtre. Et ça nous avait fait beaucoup rire. Ce monsieur, bon, il était bien plus entraîné que nous. Il nous avait dit que pour s'échauffer pour le GR20, pour commencer, il était descendu de Belgique en vélo, juste pas avant mal de commencer. Donc voilà, pas du tout le même rythme que nous. Mais c'était très drôle, ça nous a fait rire, très sympathique. Et on discutait beaucoup, on échangeait beaucoup sur nos chiens et sur comment ils vivaient l'aventure. Et il était très content de faire ça aussi avec son chien. On a croisé peu de chiens sur le GR20 d'ailleurs, j'en ai pas parlé. On a croisé 4-5 chiens peut-être. Bien souvent, les gens qu'on croisait, du coup, qui n'avaient pas de chiens, ils étaient hyper sympas. Tout le monde était très content de croiser des chiens. Ils étaient même curieux, ils nous posaient plein de questions sur comment on vivait l'aventure, tout ça, comment le chien vivait le truc. Et on avait beaucoup d'encouragement. On a croisé finalement personne qui râlait, parce que c'est vrai que selon les endroits où on peut aller, ils peuvent râler qu'il y a des chiens qui les dérangent. Voilà, mais tout le monde a été super gentil. Même les gardiens étaient très sympas, même si les chiens ne sont pas autorisés à l'intérieur de refuge. Mais on est arrivé dans des étapes où on avait quelques gardiens qui nous donnaient un petit peu des restes de fromage, de charcuterie et tout pour le chien. Donc vraiment très chouette. Les chiens sont finalement bien accueillis sur le GR. Et donc ça s'est super bien passé. Et tous les gens qui faisaient le GR avec leur chien étaient très contents de partager l'aventure avec eux. Voilà. Et nous aussi d'ailleurs, très contents.
Trop bien. Bah, merci beaucoup Julie pour ton retour et ton témoignage. Et je te dis à bientôt.
Mais ben oui, à bientôt, avec plaisir. Ciao, ciao.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça me fait très plaisir. J'espère qu'il t'a plu, et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu découvres TWIP en même temps que cet épisode, TWIP, TWIP, est une application dog-friendly qui te permet de découvrir plein de spots accessibles aux chiens en France et ailleurs. Tu peux la télécharger sur le store de ton choix, dès maintenant elle est 100% gratuite. On propose également un guide de voyage pour avoir toutes les astuces pour emmener son chien facilement avec soi, que tu retrouveras sur notre site internet www.twip-app.com. En attendant, nous on se retrouve sur l'Instagram de TWIP pour faire connaissance, et je vous dis à très bientôt.